Vladimir Korolenko, le musicien aveugle. Chapitre premier, la naissance et les premières années de l'aveugle. Au milieu d'une nuit obscure, un enfant vint au monde dans une riche famille du sud-ouest de la Russie. La jeune mère reposait dans un oubli profond de tout. Mais lorsque dans la chambre on entendit le premier cri du nouveau-né, faible et plaintif, elle se mit à s'agiter, les yeux fermés dans son lit. Ses lèvres balbutiaient quelque chose et son visage pâle, aux traits doux et presque enfantins, exprimait une vive souffrance, mêlée d'impatience comme chez un enfant gâté qui éprouve un chagrin inaccoutumé. La sage-femme approcha l'oreille de ses lèvres qui balbutiaient tout bas. Mais pourquoi est-ce qu'il... demandait la malade d'une voix à peine perceptible. La sage-femme ne comprit pas la question. L'enfant se mit à crier de nouveau. Sur le visage de la malade passa le reflet d'une souffrance aiguë, et de ses yeux clos glissa une grosse larme. Pourquoi? Continuait à balbutier ses lèvres. Cette fois, la sage-femme comprit la question et répondit tranquillement. Oh, vous demandez pourquoi l'enfant pleure? Mais c'est toujours ainsi, rassurez-vous. Mais la mère ne pouvait pas se rassurer. Elle frissonnait à chaque nouveau cri de l'enfant et répétait toujours avec une impatience irritée. Mais pourquoi des cris si horribles? La sage-femme ne trouvait rien de particulier dans les cris de l'enfant, et voyant que la mère parlait comme dans un songe confus, ou peut-être même délirait tout simplement, elle la laissa tranquille et s'occupa de l'enfant. La jeune mère se tut. De temps en temps seulement, quelques souffrances douloureuses qui ne pouvaient s'exhaler au dehors ou se traduire par des mouvements ou des paroles, lui arrachaient de grosses larmes. Elles glissaient à travers ses cils épais et noirs et coulaient doucement le long de ses joues pâles comme du marbre. Peut-être son cœur maternel avait-il senti qu'avec le nouveau-né apparaissait au monde une douleur noire et sans issue, qui restait suspendue au-dessus du berceau pour accompagner la nouvelle existence jusqu'à la tombe même. Du reste, il se pouvait aussi que ce fût un vrai délire. Quoi qu'il en soit, l'enfant naquit aveugle. D'abord, personne ne s'en aperçut. L'enfant avait ce regard terne et indéfini qui est si commun chez le nouveau-né jusqu'à un certain âge. Les jours s'écoulaient les uns à la suite des autres. La vie du nouvel être comptait déjà par semaine. Ses yeux s'éclaircirent et perdirent leur voile trouble. La prunelle se dessina. Mais l'enfant ne tournait pas sa tête vers le rayon lumineux qui pénétrait dans la chambre, avec le joyeux gazouillement des oiseaux et le murmure des hêtres verts qui se balançaient près des fenêtres même dans le jardin ombreux. La mère, déjà remise, fut la première qui aperçut, avec quelle anxiété, l'étrange expression du visage de l'enfant, immobile et trop sérieux pour un si petit être. La jeune femme regardait tout le monde comme une tourterelle effrayée en demandant: Mais dites-moi, pourquoi il est ainsi? Comment ainsi? Répliquaient les étrangers d'un air insouciant. Il ne diffère en rien des autres enfants de son âge. Mais voyez de quel air étrange il cherche quelque chose avec ses petites mains. Mais un enfant ne peut pas encore coordonner les mouvements de ses mains avec ses impressions lumineuses, répondit le docteur. Mais pourquoi donc regarde-t-il toujours dans la même direction? Oh, mais il est aveugle! S'écria-t-elle tout à coup, assaillie par un horrible soupçon, et sans que personne pût la calmer. Le docteur prit l'enfant dans ses bras, le tourna vivement vers la lumière, et regarda ses yeux. Il se troubla légèrement, et après avoir prononcé quelques phrases insignifiantes, il partit en promettant de repasser dans 2 jours. La mère pleurait et se débattait comme un oiseau blessé, en serrant son enfant contre son sein, tandis que les yeux du pauvre petit être gardaient toujours leur regard immobile et grave. En effet, au bout de 2 jours, le docteur revint, muni de son ophtalmoscope. Il alluma une bougie qu'il approchait éloignée de l'œil de l'enfant, dans lequel il plongeait de temps en temps son regard, et enfin déclarait d'un air confus: Oh, malheureusement, madame, vous ne vous êtes pas trompée. Votre enfant est réellement aveugle et qui pisait d'une façon incurable. La mère écouta cette nouvelle avec une tristesse tranquille. Depuis longtemps, je m'en doutais, dit-elle avec accablement. La famille dans laquelle naquit le petit aveugle n'était pas nombreuse. En dehors de la mère, d'une bonne et de l'enfant, elle se composait encore du père et de l'oncle Maxime, comme l'appelaient sans exception tous les domestiques et même les étrangers. Le père ressemblait aux 1000 autres propriétaires campagnards du pays. Il était débonnaire, surveillait bien ses ouvriers et aimait beaucoup à construire et à reconstruire des moulins. Cette occupation absorbait presque tout son temps, et pour cette raison, sa voix ne retentissait guère dans la maison qu'aux heures des repas ou pour toute autre circonstance analogue. Dans ces cas, il prononçait toujours invariablement cette phrase: Es-tu bien portante, ma colombe? Après quoi, il s'installait à table et ne disait presque plus rien, en dehors de quelques mots sur les cylindres et les pignons de chêne. On comprend que son existence paisible et calme n'influa pas beaucoup sur la constitution morale de son fils. Mais en revanche, l'oncle Maxime était tout à fait d'un autre genre. Une dizaine d'années avant les événements qui vont suivre, l'oncle Maxime était réputé pour le querelleur le plus dangereux, non seulement dans les environs de sa propriété, mais même à Kiev, au contrat. Tout le monde s'étonnait que dans une famille respectable sous tous les rapports, comme l'était celle de Madame Poplialski, née Yatsenko, il pût se rencontrer un si mauvais sujet. Personne ne savait comment s'y prendre avec lui et par quoi lui complaire. Il répondait toujours par des impertinences aux avances des seigneurs et passait aux paysans des licences et des grossièretés auxquelles le plus paisible des gentilshommes polonais n'aurait pas manqué de riposter par des soufflets. Enfin, à la grande joie de tous les hommes bien pensants, l'oncle Maxime, pour une cause quelconque, s'emporta fort contre les Autrichiens et partit pour l'Italie. Là, il se lia avec un autre grand batailleur, l'hérétique Garibaldi, lequel, comme le déclaraient avec horreur les seigneurs polonais, fraternisait avec le diable et ne témoignait pas d'estime pour un sou à l'égard du pape lui-même. Sans doute, de cette façon, Maxime perdit à tout jamais son âme inquiète et apostasiée, mais en revanche, les contrats à Kiev se passaient avec moins de scandale et beaucoup de nobles mères cessèrent de trembler pour le sort de leur fils. Il faut croire que les Autrichiens étaient également bien fâchés contre l'oncle Maxime. De temps en temps, on mentionnait son nom dans les articles du Courrier, le journal favori des seigneurs polonais, au nombre des plus fougueux compagnons de Garibaldi, jusqu'au jour où le même courrier annonça que Maxime était tombé avec son cheval sur le champ de bataille. Les Autrichiens exaspérés, qui évidemment depuis longtemps déjà aiguisaient leurs dents contre le bouillant Volhynien, grâce auquel et presque grâce à lui seul, se maintenait encore Garibaldi, à ce que pensaient ses compatriotes, le hachèrent comme une tête de chenou. Il a mal fini, ce Maxime, se dirent les seigneurs polonais, qui attribuèrent cette fin à l'intervention spéciale de Saint-Pierre en faveur de son remplaçant sur la terre. On croyait Maxime mort. Il se trouva cependant que les sabres autrichiens n'avaient pas su expulser de Maxime son âme récalcitrante, et elle demeura en place, quoique dans un corps bien endommagé. Les ferrailleurs de Garibaldi emportèrent leur digne camarade loin de la mêlée, le mirent dans quelque hôpital, et voilà qu'au bout de quelques années, Maxime revint inopinément dans la maison de sa sœur où il se fixa. Il avait bien maintenant autre chose à faire qu'à chercher querelles et duels. On lui avait amputé la jambe droite, il marchait avec une béquille, son bras gauche, tout meurtri, n'était plus bon qu'à s'appuyer tant bien que mal sur un bâton. Aussi était-il devenu plus sérieux, plus calme. De temps en temps seulement, sa langue acérée s'agitait avec autant de prestesse qu'autrefois son sabre. Il cessa d'aller au contrat, se montrait rarement dans le monde et passait la plupart de son temps dans sa bibliothèque à lire quelques livres dont personne ne savait rien, sauf qu'on les supposait a priori absolument impies. Il écrivait également, mais comme ses travaux ne paraissaient jamais dans le courrier, personne ne leur attribuait une sérieuse valeur. Au moment où, dans la petite maison de campagne, apparut et commença à s'élever le nouveau-né, on pouvait déjà apercevoir, dans les cheveux de l'oncle Maxime coupé ras, quelques fils d'argent. Les épaules s'étaient soulevées sous la pression continue des béquilles. Le buste s'était carré. Son extérieur étrange, ses sourcils rapprochés, son air morose, le bruit de ses béquilles et les nuages de fumée de tabac dont il s'entourait continuellement, ne lâchant jamais sa pipe. Tout cela effrayait les étrangers. Et seuls les proches de Maxime savaient que dans ce corps délabré battait un cœur chaud et bon, et que dans sa grosse tête carrée, hérissée d'une brosse de cheveux durs, travaillait sans cesse la pensée d'un être intelligent. Mais ses proches eux-mêmes ignoraient à quelle question s'appliquait alors le travail de cette pensée. Ils voyaient seulement que l'oncle Maxime, entouré d'une fumée bleue, restait parfois immobile des heures entières, le regard voilé, les sourcils froncés. En ces moments, le guerrier mutilé songeait que la vie est une lutte où il n'y a pas de place pour les invalides. Il se disait qu'il était sorti à jamais des rangs et qu'il était une charge pour autrui. Il se faisait l'effet d'un cavalier désarçonné par la vie et gisant sur le sol. Et n'était-il point lâche de se traîner ainsi dans la poussière comme un ver écrasé? N'était-il point honteux de s'accrocher à l'étrier en suppliant le destin de conserver les misérables restes de son existence? Pendant que l'oncle Maxime ruminait de sang-froid cette pensée cuisante, combinant, mettant en regard toutes les raisons pour et contre, devant ses yeux commençait à grandir un nouvel être dont le sort avait fait un infirme dès sa naissance. D'abord, il ne prêta pas grande attention au petit aveugle, mais après, la similitude de l'existence de l'enfant avec la sienne parut intéressante à l'oncle Maxime. « Hum, oui, » dit-il un jour d'un air pensif, en jetant sur l'enfant des regards obliques, « ce petiot est aussi un infirme. Et si l'on faisait l'addition de nous deux, on pourrait peut-être avoir au total un seul bonhomme passable. » Et à partir de ce moment, son regard s'arrêta sur l'enfant de plus en plus souvent. L'enfant était né aveugle. Mais qu'est-ce qui était coupable de son malheur? Personne. Non seulement il n'y avait pas ici l'ombre d'une mauvaise volonté de la part de qui que ce fût, mais la cause même de ce malheur était cachée dans la profondeur des manifestations mystérieuses et compliquées de la vie. Et cependant, à chaque coup d'œil que la mère jetait sur son fils aveugle, Une douleur aiguë lui serrait le cœur. Sans doute alors elle souffrait, comme mère, par action réflexe, de l'infirmité de son fils et de l'avenir pénible qu'elle pressentait pour lui. Mais en dehors de ses sentiments, les entrailles de la jeune femme saignaient à l'affreuse idée que la cause de son malheur pouvait provenir de ceux-là même qui lui avaient donné la vie. Cela suffisait pour que le petit être aux beaux yeux morts fût devenu le souci exclusif de la famille, un despote inconscient dont le moindre caprice était une loi pour toute la maison. Il est impossible de savoir ce qu'il serait advenu avec le temps de ce garçon prédisposé à s'irriter sans raison à cause de son malheur et dans lequel tout ce qui l'entourait tendait à développer l'égoïsme, si une étrange fortune et les sabres autrichiens n'avaient pas forcé l'oncle Maxime à se fixer dans la famille de sa sœur. La présence du jeune aveugle dans la maison imprima petit à petit et insensiblement à la pensée active de l'invalide une autre direction. Il continuait, comme avant, de passer des heures entières à fumer sa pipe, mais au lieu d'une douleur profonde et obtuse, on voyait à présent sur ses traits l'expression intelligente d'un observateur intéressé. Et plus l'oncle Maxime regardait avec attention, plus il fronçait ses sourcils épais et plus fort tirait-il sur sa pipe. Enfin, un jour, il se décida à intervenir. « Ce petiot, fit-il en lâchant plusieurs anneaux de fumée à la suite les uns des autres, sera encore beaucoup plus malheureux que moi. Il aurait mieux fait de ne pas en être. » La jeune femme baissa la tête et une larme tomba sur son ouvrage. « Il est cruel de me le rappeler, Max, dit-elle tout bas, de me le rappeler sans raison. » « Je dis que la vérité, répondit Maxime. Il me manque une jambe et un bras, mais j'ai des yeux. Le petit n'a pas d'yeux, et plus tard il n'aura ni bras, ni jambes, ni volonté. » « Mais pourquoi donc ? Mais comprends-moi, Anna, dit Maxime avec plus de douceur. Je ne te dirai pas sans raison des choses aussi cruelles. L'enfant a une constitution délicate et très nerveuse. Bon, pour le moment, il a toutes les chances de développer ses facultés jusqu'au point de contrebalancer, du moins en partie, sa cécité. Mais pour cela, il faut un exercice. Et l'exercice n'est provoqué que par la nécessité. Une sollicitude sotte qui écarte de cet enfant tout besoin d'effort tue en lui-même toute possibilité d'une vie complète. La mère était intelligente et elle sut, par conséquent, vaincre l'impulsion immédiate qui la poussait à s'élancer vers son enfant à chaque cri plaintif de celui-ci. Quelques mois après cette conversation, l'enfant se traînait librement et lestement dans les chambres, dressait l'oreille à chaque bruit et tâtait avec une vivacité inconnue aux autres enfants chaque objet qui lui tombait sous la main. Il apprit à reconnaître sa mère à sa démarche, au frôlement de sa robe et à quelques autres signes inaccessibles à lui seul, imperceptibles pour les autres. On avait beau être nombreux dans la pièce, on avait beau changer de place, il se dirigeait toujours sans hésitation du côté où elle était assise. Quand elle le prenait subitement dans ses bras, il reconnaissait immédiatement que c'était sa mère qui le tenait. Quand c'était les autres qui le soulevaient, il se mettait bien vite à tâter avec ses menottes le visage de la personne qui le tenait et reconnaissait également sa bonne, l'oncle Maxime, son père. Mais si c'était un étranger, les mouvements de ses petites mains devenaient plus lents. Il les passait avec précaution sur le visage inconnu et ses traits exprimaient une tension extrême. On eût dit qu'il regardait avec attention par les extrémités de ses doigts. De sa nature, il était vif et remuant. Mais les mois suivaient les mois et la cécité imprimait de plus en plus son cachet sur le tempérament de l'enfant qui commençait à se dessiner. La vivacité de ses mouvements diminuait peu à peu. Il commençait à se cacher dans des coins éloignés et y passait tranquillement des heures entières, les traits figés, comme s'il eût prêté l'oreille à quelque bruit. Quand le silence régnait dans la pièce, quand rien ne venait distraire son attention, il semblait que l'enfant pensât à quelque chose avec une expression étonnée et stupéfaite de son charmant visage, qui était beaucoup trop sérieux pour un enfant de son âge. L'oncle Maxime le devinait. La fine et riche constitution nerveuse de l'enfant prenait le dessus et, par la facile perspicacité des sensations du toucher et de l'ouïe, tendait en quelque sorte à reconstituer, jusqu'à un certain point, la plénitude de ses facultés. Tout le monde s'étonnait de la fréquente acuité de son toucher. Parfois, il semblait même qu'il ne fût pas étranger aux sensations des couleurs. Quand il lui tombait sous la main des chiffons aux couleurs vives, il arrêtait sur eux plus longtemps ses doigts fins et sur son visage passait l'expression d'une attention surprise. Cependant, avec le temps, il devenait de plus en plus clair que le développement de la perceptivité se portait principalement du côté de l'ouïe. Bientôt, il apprit à reconnaître les différentes pièces d'après leur son. Il distinguait la démarche de tous les gens de la maison, le bruit de la chaise de l'oncle invalide, le froissement sec et mesuré du fil entre les mains de sa mère, et le tic-tac monotone de la pendule. Parfois, en rampant le long des murs, il prêtait avec attention l'oreille à quelque léger bruit, imperceptible pour les autres, et levant les bras, les tendait vers une mouche qui courait sur la tapisserie ou sur des papiers à sa portée. Quand l'insecte effrayé quittait sa place et se posait sur le visage de l'aveugle, la physionomie de celui-ci exprimait un étonnement maladif. Il ne pouvait pas davantage s'expliquer la disparition étrange de la mouche. Mais plus tard, son visage conservait, dans des cas pareils, l'expression d'une attention intelligente. Il tournait la tête du côté où la mouche s'était envolée, et l'ouïe aiguisée percevait dans l'air les sons légers produits par ses ailes. Le monde qui étincelait, qui remuait et bruissait tout autour, pénétrait dans la petite tête de l'aveugle, principalement sous la forme des sons, et c'était cette forme que prenaient ses images. Sur ses traits se figeait une expression particulière, celle qui caractérise une attention excessive aux perceptions de l'ouïe. La mâchoire inférieure retombait légèrement, les sourcils se rapprochaient, la tête se penchait et se tendait en avant sur le cou fin et allongé. En même temps, ses beaux yeux, qui restaient immobiles, imprimaient au visage de l'aveugle un cachet aussi grave que touchant. Le deuxième hiver de sa vie approchait de sa fin. La neige commençait à fondre, on entendait le tintement des torrents printaniers et en même temps la santé de l'enfant, qui en hiver était fréquemment indisposé et ne quittait pas l'appartement, s'améliorait peu à peu. On enleva le second châssis et le printemps fit irruption dans les chambres avec une force doublée. Le soleil riant du renouveau, regardé par les fenêtres, inondait de lumière. Des branches encore nues des hêtres se balançaient près des croisées. Les champs apparaissaient noirs dans le lointain, et on pouvait y voir par places les taches blanches de la neige fondante, tandis qu'ailleurs se faisait jour, sous forme de verdure à peine perceptible, une herbe naissante. Tout le monde respirait mieux et plus librement. Sur chacun, le printemps se manifestait par l'afflux d'une force vitale renouvelée, la sève. Pour l'aveugle, il en recevait l'impression que par ces bruits récipités. Il entendait courir les torrents printaniers qui, on eût dit, se pressaient l'un après l'autre, sautant de pierre en pierre et s'enfonçant dans la profondeur de la terre amollie. Les branches des hêtres se parlaient à voix basse derrière les fenêtres en se heurtant l'une contre l'autre, et sous leur choc léger vibraient les vitres, et les égouttements menus et pressés des glaçons pendant du toit, pris par la gelée matinale et à présent échauffés par le soleil, sonnaient par mille coups retentissants. Ces sons tombaient dans la chambre comme un roulis de cailloux éclatants et sonores. De temps en temps, on entendait, à travers ces sons et ces bruits, les cris d'appel des grues qui passaient dans les hauteurs des airs, des cris qui s'en allaient, mourant peu à peu, comme s'ils se fussent fondus dans l'espace. Cette animation de la nature se traduisait sur le visage de l'enfant par un étonnement maladif. Il rapprochait avec effort ses sourcils, allongeait le cou, prêtait l'oreille, puis, comme alarmé par l'agitation incompréhensible des sons, il étendait tout d'un coup ses mains en cherchant sa mère et se jetait vers elle en se serrant fortement contre sa poitrine. « Mais qu'est-ce qu'il y a donc ?» demandait-elle aux autres et à elle-même. L'oncle Maxime examinait avec attention le visage de l'enfant et ne pouvait s'expliquer son émoi. « Mais il ne peut pas comprendre, » devinait la mère, en apercevant sur le visage de son fils une expression interrogative de maladive surprise. En effet, l'enfant était alarmé et inquiet. Tantôt il discernait facilement des sons nouveaux, tantôt il constatait avec stupeur que les anciens, ceux auxquels il commençait déjà à s'habituer, disparaissaient tout à coup, se perdaient, il ne savait tout. Le chaos du désarroi printanier cessa. Sous l'influence des chauds rayons du soleil, le travail de la nature rentrant de plus en plus dans son ornière. On eût dit que la vie se tendait. Sa marche progressive devenait plus précipitée, comme celle d'un train mis en mouvement. Les prés se glacèrent de verdure. L'air était imprégné de l'odeur qu'exhalaient les bourgeons des bouleaux. On décida de faire sortir l'enfant dans les champs, au bord de la rivière la plus proche. La mère le menait par la main. À côté d'eux marchait, avec ses béquilles, l'oncle Maxime, et tout le monde se dirigea vers une colline située au bord de la rivière et qui était déjà suffisamment séchée par le vent et le soleil. Elle était couverte d'une fraîche verdure et de son sommet, la vue s'étendait au loin. Une lumière éclatante frappait les yeux de la mère et de Maxime. Les rayons du soleil échauffaient leurs visages, la brise du printemps, en les éventant d'ailes invisibles, chassait cette chaleur en la remplaçant par une fraîcheur salubre. Il planait dans les airs quelque chose qui enivrait jusqu'à la mollesse, jusqu'à la langueur. La mère sentait dans sa main se serrer fortement celle de l'enfant, mais le souffle grisant du printemps la rendait moins sensible à cette manifestation du trouble de son fils. Elle respirait à plein poumon et avançait sans se retourner. Et si elle l'avait fait, elle aurait vu une bien étrange expression sur les traits du petit garçon. Il tournait vers le soleil ses yeux grands ouverts avec un étonnement muet. Ses lèvres béaient et il aspirait l'air à coups pressés comme un poisson qu'on a sorti de l'eau. Une extase maladive apparaissait de temps en temps sur son petit visage effaré et désorienté, l'agitant de secousses nerveuses, l'éclairant pour un instant et faisant aussitôt place à une expression d'étonnement qui allait jusqu'à la frayeur et à une perplexité interrogative. Les yeux seuls conservaient le même regard aveugle, égal et immobile. Arrivés à la colline, ils s'assirent tous les trois. Quand la mère souleva l'enfant pour l'installer mieux à son aise, il la saisit de nouveau convulsivement par la robe. Il semblait qu'il eût peur de tomber, comme s'il n'avait point senti le sol sous lui. Mais la mère ne remarqua pas une fois non plus ce mouvement d'inquiétude, parce que son attention et ses yeux étaient absorbés par le merveilleux tableau du printemps. Il était midi, le soleil avançait lentement dans le ciel bleu. De la colline sur laquelle ils étaient assis, on voyait la rivière fortement débordée. Elle roulait, débarrassée de ses glaçons. De temps en temps seulement, par-ci par-là, flottaient et fondaient à sa surface les dernières plaques qui dessinaient sur l'eau de petites taches blanches. Une large couche de limon couvrait les prés submergés. Les blancs nuages qui s'y reflétaient avec le bleu du firmament renversé nageaient lentement dans la profondeur et disparaissaient comme si eux aussi ils se fondaient ainsi que les glaçons. Par moments, le vent soulevait de petites rides qui étincelaient au soleil. Plus loin, au-delà de la rivière, on voyait des champs noirs, en moiteur, d'où s'élevait une légère buée vacillante qui enveloppait les lointaines isbas couvertes de chaume et la lisière de la forêt dont le contour bleuâtre se dessinait à peine. On eût dit que la terre soupirait et que quelque chose s'exhalait d'elle vers le ciel comme les tourbillons d'encens du sacrifice. La nature s'épandait tout autour comme un vaste temple préparé pour une fête. Pour l'aveugle, tout n'était que ténèbres, des ténèbres sans fin, qui s'agitaient autour de lui d'une étrange manière, qui remuaient, résonnaient et tintaient en touchant de tous côtés son âme par des impressions extraordinaires que jusque-là il n'avait encore jamais ressenties, impressions dont l'afflux faisait battre douloureusement son cœur. Dès les premiers pas, aussitôt que les rayons de cette rouillette journée avaient éclairé son visage, réchauffé sa peau tendre, il s'était mis à tourner instinctivement vers le soleil, ses yeux aveugles, comme s'il devinait que c'était là le centre autour duquel gravitait tout ce qui l'environnait. Ni ce lointain transparent, ni l'azur du firmament, ni le vaste horizon n'existaient pour lui. Il sentait seulement que quelque chose de matériel, de caressant et de tiède effleurait son visage d'un tendre attouchement qui le réchauffait. Puis un je ne sais quoi de léger, moins léger pourtant que la chaleur des rayons solaires, dissipait cette molle douceur et répandait en lui une fraîcheur vivifiante. Dans l'appartement, le petit enfant, habitué à marcher librement et à sentir un vide tout autour, tandis qu'ici il était comme enveloppé de vagues se succédant d'une façon si étrange, qui tantôt le caressait doucement, tantôt le chatouillait et l'enivrait. Les ardents baisers du soleil étaient vite rafraîchis par la brise qui l'éventait, et un souffle de vent, résonnant dans ses oreilles et enveloppant son visage, ses tempes, sa tête jusqu'à la nuque, s'étendait autour de lui, comme pour l'enlever, pour l'entraîner quelque part dans l'espace qu'il ne pouvait voir, le plongeant dans une enivrante lassitude qui lui faisait, pour ainsi dire, perdre connaissance. C'est à ces moments que sa main serrait plus fortement celle de sa mère et qu'il lui semblait que d'un instant à l'autre, son cœur engourdi allait cesser complètement de battre. Quand on le fit asseoir, on eût dit qu'il se calmait un peu. À présent, malgré l'étrange sensation dont tout son être débordait, il pouvait néanmoins différencier les sons isolés. Les ondes noires et caressantes continuaient à l'envelopper irrésistiblement, et comme l'augmentation ou la diminution des battements de son sang agité était réglée sur l'afflux de ces ondes, Il lui semblait qu'elles pénétraient dans l'intérieur même de son corps. Mais elles apportaient maintenant avec elles tantôt le tri clair de l'alouette, tantôt le faible frôlement du bouleau qui commençait à verdir, tantôt le clapotement de la rivière à peine perceptible. L'hirondelle bruissait de ses ailes légères en décrivant à proximité des cercles fantastiques. Les mouches bourdonnaient, et tous ces murmures étaient de temps à autre dominés par le long et triste appel d'un laboureur qui stimulait ses chevaux à une demi-verste de là, dans un champ cultivé. Mais l'enfant ne pouvait saisir ces bruits dans leur ensemble, les réunir et disposer en perspective. On eût dit qu'ils tombaient un à un en pénétrant dans la petite tête ignorante, tantôt doux, indistinct, tantôt sonore, clair, assourdissant. Par moments, ils se pressaient en foule simultanément et se confondaient dans une dissonance incompréhensible. Et les vents de la campagne sifflaient toujours dans ses oreilles. Il lui semblait que les vagues couraient plus vite et que leur grondement couvrait tous les autres murmures qui à présent lui arrivaient de quelque autre monde, comme le souvenir d'une journée passée. Et au fur et à mesure que les bruits s'affaiblissaient, son cœur était envahi par une langueur grandissante. Sur son visage se succédaient des expressions rythmiques et changeantes. Ses yeux se fermaient et s'ouvraient alternativement, et tous ses traits disaient l'interrogation, le pénible effort de sa pensée, de son imagination. Sa jeune conscience, encore mal affermie et trop pleine de sensations nouvelles, commençait à fléchir, mais elle luttait encore avec les impressions qui arrivaient en masse de tous les côtés, essayait de tenir bon contre elles, de les confondre en un seul ensemble, et par ainsi de s'en emparer, de les vaincre. Mais la tâche dépassait l'effort de l'ignorant cerveau d'enfant, auquel, pour ce travail, manquaient les images optiques, et les sons passaient, tombaient un à un, toujours trop bigarrés, trop intenses encore. Les vagues qui enveloppaient l'enfant se soulevaient de plus en plus, surgissant des ténèbres tintantes et grondantes qui l'entouraient, se perdant dans les mêmes ténèbres, remplacées par de nouvelles ondes sonores. Elles le soulevaient plus haut, plus vite, d'une façon plus poignante, le dorlotaient, le berçaient, encore une fois passa au-dessus de ce chaos qui devenait toujours plus confus la longue et triste mélopée du laboureur. Puis tout rentra dans le silence. L'enfant exhala un faible gémissement et se renversa sur l'herbe. La mère se tourna vivement vers lui et poussa un cri. Son fils gisait sur le gazon, pâle, dans un évanouissement profond. L'oncle Maxime fut grandement alarmé par cet accident. Depuis quelque temps, il faisait venir des livres de physiologie, de psychologie et de pédagogie. Avec l'énergie qui lui était habituelle, il se mit à apprendre tout ce que la science enseigne relativement à la marche et au développement énigmatique d'une âme enfantine. Ce travail l'absorbait de plus en plus. Aussi ses tristes pensées sur son inutilité dans la lutte pour la vie, sur le ver rampant dans la poussière, s'était-elle depuis longtemps évaporée de la tête carrée du vétéran? À leur place, y régnait une attention scrutatrice. De temps en temps même, des rêves roses réchauffaient son cœur vieillissant. L'oncle Maxime constatait de plus en plus que la nature, en privant cet enfant de la vue, ne lui avait pas refusé d'autres dons. Qu'il répondait aux impressions extérieures qui lui étaient accessibles avec une remarquable plénitude de force. Et il semblait à l'oncle Maxime qu'il était appelé à développer les capacités dont son neveu était doué, à contrebalancer, par l'effort de sa pensée et de son influence, l'injustice de l'aveugle fortune afin de pouvoir incorporer dans les rangs des lutteurs pour la juste cause de la vie une nouvelle recrue sur laquelle, avec son intervention, sans son intervention, personne n'aurait eu l'idée de compter. Qui sait, pensait le vieux compagnon de Garibaldi, on peut combattre avec d'autres armes que la lance et le sabre. Peut-être injustement traité par le sort, mon neveu élevera-t-il un jour l'arme dont il se sera saisi pour défendre les autres des héritiers de la fortune. Et alors, j'aurai le droit de dire que moi, vieux soldat estropié, n'aurai point vécu inutile. Même les libres penseurs des années 1840 à 1860 n'étaient pas étrangers aux notions superstitieuses sur les mystérieuses prédestinations de la nature. Il n'est donc pas étonnant qu'à mesure que l'enfant se développait et témoignait de capacités hors ligne, le vieil oncle Maxime se raffermit de plus en plus dans sa conviction que cette cécité n'était point autre chose qu'une des manifestations de ces prédestinations mystérieuses. Un déshérité de la fortune, champion des offensés, telle était la devise qu'il mit d'avance sur l'étendard de lutte de son pupille. Après sa première promenade de printemps, l'enfant passa quelques jours dans le délire. Tantôt il restait couché, immobile et silencieux, dans son lit, tantôt il murmurait on ne savait quoi, ou prêtait l'oreille à quelque chose. Et pendant tout ce temps, l'expression caractéristique de son visage était celle d'un grand étonnement. Je vous assure qu'il regarde comme s'il essayait de comprendre quelque chose sans y arriver, disait la jeune mère. Maxime devenait pensif et secouait la tête. Il comprit que l'étrange émoi du jeune aveugle et sa syncope subite s'expliquaient par l'abondance d'impressions dont sa jeune conscience ne pouvait se rendre maîtresse, et il décida que ces impressions ne devaient pénétrer dans l'esprit du convalescent que petit à petit, et pour ainsi dire désarticulés en leur partie constituante. Les fenêtres de la chambre où le malade était couché étaient solidement fermées. Puis, à mesure qu'il se remettait, on les ouvrait pour quelques heures. Plus tard, on le promenait dans la chambre. On le faisait sortir sur le perron, dans la cour, dans le jardin. Et chaque fois, aussitôt que sur le visage de l'enfant apparaissait une expression d'inquiétude, sa mère lui donnait l'explication des bruits qu'il avait frappés. « C'est la cornemuse du berger qu'on entend derrière la forêt, » disait-elle. « C'est une voix de fauvette qui résonne à travers le gazouillement d'une volée de moineaux. Oh, la cigogne fait glou-glou sur sa roue. Ces jours-ci, elle est revenue des pays lointains, et fait son nid au vieil endroit. » Et le petit garçon tournait vers elle son visage, qui brillait d'une vive reconnaissance, lui prenait la main et secouait sa tête en continuant d'écouter avec une attention intelligente et investigatrice. Il commençait à questionner sur tout ce qui attirait son attention, et sa mère, ou encore plus souvent l'oncle Maxime, lui parlait des objets ou des êtres qui émettaient tel ou tel son. Les récits de sa mère, plus vifs et plus explicites, produisaient sur lui une grande impression. Mais parfois, cette impression était trop poignante. La jeune femme, souffrant elle-même, le visage bouleversé, les yeux fixés sur son fils d'un air plaintif et douloureux, impuissant, essayait de donner à son enfant quelques notions sur les formes et les couleurs. Le garçonnet tendait son attention, rapprochait les sourcils, et sur son front apparaissaient même de légères rides. Il était évident que sa tête travaillait à une tâche au-dessus de ses forces. Son imagination ignorante se débattait, s'efforçait de créer, à l'aide de données indirectes, une nouvelle image. Mais il n'arrivait à aucun résultat. L'oncle Maxime, dans ces cas semblables, fronçait toujours les sourcils d'un air mécontent. et quand les larmes perlaient aux cils de la mère, quand le visage du petit pâlissait à cause de ses efforts concentrés, l'oncle se mêlait à la conversation, éloignait sa sœur et commençait des récits dans lesquels il avait surtout recours aux images d'espace et d'acoustique. Et la physionomie du petit aveugle se rassérénait alors un peu. « Et comment est-elle? Est-elle grande? » s'écriait-il à propos de la cigogne qui faisait entendre sur son poteau un traînant roulement de tambour. Et ce disant, le jeune garçon écartait ses mains, comme il avait l'habitude de le faire en posant ces sortes de questions, et l'oncle Maxime lui indiquait à quel moment il fallait s'arrêter. Cette fois, il ouvrit tout grand ses petits bras, mais l'oncle Maxime lui dit « Non, oh, elle est encore beaucoup plus grande. Si on l'avait amenée dans la chambre et mise sur le plancher, sa tête aurait dépassé le dossier de la chaise. »« Grande ?» fit le garçon d'un air pensif. « Et la fauvette, voilà ?» Et il écartait à peine les paumes de ses mains qui se touchaient. « Oui, la fauvette n'est pas plus grande. » Mais en revanche, les grands oiseaux ne chantent jamais aussi bien que les petits. La fauvette se donne de la peine pour que tout le monde trouve du plaisir à l'entendre. Et la cigogne est un oiseau sérieux qui reste debout dans son nid sur un seul pied, en regardant autour d'elle comme un méchant maître regarde ses ouvriers et grogne à haute voix, sans s'inquiéter si sa voix est enrouée et peut-être entendue par des étrangers. Et le garçon riait gaiement en écoutant ces descriptions et oubliait pour quelques instants les pénibles efforts qu'il faisait pour comprendre les récits de sa mère. Mais malgré cela, ses récits l'attiraient plus fort et il préférait lui adresser ses questions à elle plutôt qu'à l'oncle Maxime.